professeur Ewish vient de recevoir le prix Nobel de physique. Désolée,
non, c'est non, non. C'est génial.
Quoi?
Et maintenant, retour à la musique avec David Bowie.
Rendez-vous compte. C'est un grand jour. C'est la première fois que l'Académie Nobel reconnaît l'astrophysique. Cette reconnaissance est notre lancement qui a réussi. Ça vaut bien une bonne tasse de thé.
To the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen.
Les Fabuleuses, c'est une série théâtrale sur des femmes scientifiques exceptionnelles qui sont pourtant méconnues ou oubliées du grand public. Si j'ai eu envie de faire, d'écrire cette série, c'est parce que ces femmes ont mérité d'être connues. Elles ont vraiment fait de la fission nucléaire à la structure de l'ADN en passant par la trisomie 21, des découvertes fondamentales qui ont changé la face du monde. Et pourtant, elles ont été évincées, invisibilisées, mises aux oubliettes de l'histoire des sciences. Le premier épisode concerne Lise Meitner. Lise Meitner, c'est elle qui a compris pour la première fois le mécanisme de la fission nucléaire. C'est-à-dire qu'elle a compris que le noyau d'un atome pouvait se casser en deux parties plus petites en libérant une énergie considérable. C'est elle qui a compris ça pour la première fois et évidemment ça a changé quand même un peu la face du monde.
Si on obtient du barium, on obtient aussi...
Du pluton, cela ne peut pas être autre chose.
Trois neutrons. Il y a une très légère différence entre la masse du noyau d'uranium et la somme des masses des noyaux plus légers obtenus au cours de la réaction. Le cinquième de la masse d'un proton, c'est presque rien. Oui, mais l'énergie libérée est égale au produit de la différence de masse par le carré de la vitesse de la lumière, E égale mc2. Et C, la vitesse de la lumière, est très grande, 300 000 km par seconde. Ça fait 200 millions d'électronvolts.
Le noyau, comme une cellule vivante, peut se rompre sous l'action d'un neutron. En biologie, je crois qu'on appelle ça la fission.
Nous avons découvert la fission nucléaire.
Jocelyn Bell, c'est le deuxième épisode, s'appelle Prix Nobel. Le premier, si j'ai omis de le dire, s'appelle Exil intérieur. Donc le deuxième épisode, c'est sur l'astrophysicienne irlandaise Jocelyn Bell, qui a découvert le premier pulsar, c'est-à-dire le signal envoyé par une étoile à neutrons. Alors, en astrophysique, c'est une découverte majeure, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on découvre de nouveaux astres et le signal qu'ils émettent. Elle a essayé de convaincre pendant longtemps son patron de thèse, Anthony Hoish, que cette découverte était intéressante. Il a résisté longtemps, et puis quand il a finalement compris que c'était une découverte intéressante, il a écrit un article dans la prestigieuse revue Nature, en mettant son nom en premier, celui de Jocelyn en second. Ça, c'était en 1969. Et en 1974, c'est lui qui a eu le prix Nobel pour la découverte des pulsars.
Attendez, attendez.
Oui, c'est ça, c'est bien lui. Oui.
Exactement, je le reconnais. Ah, c'est mon signal.
Mon pulsar.
Pulsar.
Oui, c'est comme ça que j'appelle ce signal à cause de sa structure.
Allô? Oui. Oh, absolument, Paul.
Alors, nous devrions publier son
article. Oh, tout à fait, tout à fait. Rentrez vite, je vais réfléchir au plan de l'article. À tout de suite, Paul.
venant de faire une découverte majeure.
Le troisième épisode s'appelle l'affaire Rosalind Franklin, du nom de la physico-chimiste britannique Rosalind Franklin, qui a découvert, grâce à ses études en rayons X, la structure en double hélice de l'ADN. Donc elle a ouvert la voie à toute la biologie moléculaire moderne. Mais le fameux cliché numéro 51, qui est un cliché de rayons X, qui révèle cette structure en double hélice, a été volé par Wilkins, Crick et Watson, qui, eux, ont eu le prix Nobel de médecine en 1962.
Je n'aurais jamais cru que ce cliché contenait autant d'informations.
C'est pour cela qu'il est si précieux. Tout ça reste entre nous, on est bien d'accord?
Oui, oui, je vous le jure.
Ne jurez pas. Vous voyez? Ces taches très pâles, là.
Quoi? Ces quatre extrémités du X à peine visibles?
Oui.
Eh bien,
ça signe la présence d'une deuxième hélice.
Deux hélices. Vous en êtes sûr?
Potentiellement quatre. Pas trois en tout cas, je parierais sur deux. Il faut réfléchir à la symétrie maintenant.
Quelle symétrie?
Une hélice, c'est comme un escalier au colimaçon, le pas peut être à droite ou bien à gauche.
Je vois.
La double hélice peut donc aller dans un sens ou bien dans l'autre sens.
Et ce sens serait toujours le même pour tous les êtres vivants?
C'est encore une hypothèse, bien sûr, mais... mais je pense que oui.
La vie aurait donc un sens.
Le quatrième épisode, qui s'appelle « La découvreuse oubliée » et qui sera créé à l'automne 2025, c'est l'histoire de Marthe Gauthier, une pédiatre française qui a découvert la trisomie 21, donc l'origine de ce qu'on appelait autrefois le mongolisme, et qui, elle aussi, a été dépouillée de ses résultats. Donc, voilà, des femmes qui, finalement, ont vécu à des époques relativement différentes, dans des pays différents, qui se sont spécialisées dans des disciplines scientifiques différentes. Et pourtant, l'histoire est toujours la même. Une femme en compétition avec, ou en collaboration d'ailleurs avec des hommes arrive à faire des découvertes majeures et elles ne sont pas récompensées. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réaction qu'elles ont quand d'autres sont récompensés à leur place. Je vais parler de Lise Meitner peut-être en dernier. Jocelyn Bell, la première chose qu'elle a dite quand on lui a appris que Anthony Hewish avait le prix Nobel de physique pour la découverte des pulsars, sans mention de son nom à elle, c'est un très grand jour parce que l'astrophysique est enfin reconnue par le comité Nobel. Rosalind Franklin, elle a juste tourné la page, elle est allée faire autre chose. En 1953, elle a quitté le King's College de Londres où elle faisait ses recherches sur la structure de l'ADN, parce qu'elle en avait assez de cette clique Wilkins, Crick et Watson qui lui faisait une vie difficile. Et elle est partie à Birkbeck College où elle s'est intéressée à la structure des virus et à la façon dont ils attaquent les cellules, ce qui était quand même assez pionnier en 1953. Et elle a travaillé là-dessus, en particulier avec quelqu'un qui s'appelle Aaron Krug, et qui, lui, a eu le prix Nobel de médecine pour les découvertes qu'il a faites avec Rosalind Franklin. Et je pense qu'elle aurait eu le prix Nobel si elle avait vécu, mais elle est morte à 38 ans, en 1958. Quant à Marthe Gauthier, elle est retournée à ses premières amours après avoir fait ses études sur les chromosomes, c'est-à-dire qu'elle est repartie vers la cardiologie pédiatrique, où elle a fait une carrière qui apparemment l'a comblée. Elle dit jusqu'à la fin de sa vie qu'elle est comblée parce qu'elle a encore des gens qui lui envoient des fleurs tous les ans pour... la remercier de les avoir sauvés, en quelque sorte. Donc, évidemment, c'est très gratifiant. Et elles n'ont visiblement pas d'amertume Alors, on peut se demander pourquoi, et c'est ce qui m'a intéressée dans ce concept de série, en fait, plutôt que d'écrire une pièce sur une de ces femmes. D'abord, il aurait été difficile de choisir, mais surtout, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir qu'elles ont toutes, peu ou prou, la même attitude. Pourquoi ? Parce que, et je dirais à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je pense que les femmes dans cette situation demanderaient leur dû, feraient savoir qu'elles ont été lésées. À ces époques-là, et pourtant pas tellement reculées, 1974, c'était pas si loin de nous, finalement. Eh bien, à ces époques-là, si une femme ouvrait la bouche, de toute façon, elle était hystérique, acariâtre, elle faisait des histoires, et il fallait surtout pas l'écouter. Donc, c'était absolument inutile de demander justice dans ces cas-là, dans les cas que j'ai étudiés. Et donc, elles passaient leur chemin. Elles faisaient autre chose, mais au fond, on les oubliait. Pour en revenir à Lise Meitner, qui est un personnage que j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de jouer, aux côtés de Benoît Di Marco, qui interprète Otto Hahn, son collaborateur allemand chimiste, qui est resté avec l'Allemagne nazie, en Allemagne nazie plutôt, jusqu'à la fin de la guerre. Et Imer Kutlovski, qui joue le neveu de Lise Meitner, physicien lui aussi, Otto Robert Frisch, qui avec Rudolf Peierls est le premier à avoir calculé de façon correcte la masse critique nécessaire pour entretenir une réaction en chaîne et donc fabriquer une bombe nucléaire, sous la direction de Marie Steen. Eh bien, pour en revenir à elle, elle a la même attitude, mais c'est encore plus frappant, peut-être, parce qu'elle pardonne non seulement à Otto Hahn, à qui on a décerné le prix Nobel de chimie en 1944 pour la découverte de la fission nucléaire, prix Nobel qu'elle aurait au moins pu partager, mais elle pardonne aussi à deux collègues de Berlin qui étaient franchement nazis. Et elle leur pardonne en 1946. En 1946, elle écrit des lettres de recommandation pour qu'ils ne soient pas inquiétés, ses ex-collègues, et qu'ils puissent conserver leur poste malgré leur compromission avec les nazis dès 1933. Donc, c'est assez extraordinaire de voir la résilience de ces femmes, leur envie de pardonner ou tout au moins de tourner la page, de faire comme si l'insulte, le vol n'avait pas existé.
Au fond, nous vivons dans un monde où les hommes s'entretuent et les femmes pardonnent. Tout. Absolument tout.
Je n'ai pas le choix.
Sans aucun doute. Vous n'avez pas le choix.
J'ai tout essayé.
Chacun a signé à son rôle. Vous pardonnez à votre ami Otto, vous leur pardonnez à tous, parce que c'est ce qu'on attend d'une femme.
J'ai tout essayé, crois-moi. Je voulais effacer toutes les différences. Je voulais être comme eux, avec eux. J'ai travaillé comme un homme, je suis devenue protestante. Ça n'a pas suffi. C'est absurde.
Lise Meitner, c'était en plus quelqu'un qui avait un degré d'exigence éthique quand même très supérieur à la moyenne. Alors, il faut savoir qu'en 1915 et 1916, elle s'est engagée comme infirmière sur le front, côté allemand, bien sûr. Elle a soigné des blessés et ça l'a énormément frappée. On peut d'ailleurs dire, la pièce le raconte, que pendant que Lise Meitner soignait les blessés, Otto Rahn travaillait dans un laboratoire pour fabriquer des gaz de combat. Eh bien, cette expérience assez traumatique, en fait, a conduit Lise Meitner à refuser de faire partie du projet Manhattan, le projet qui était voué à fabriquer la bombe du côté allié. Elle a refusé, sachant pertinemment qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas savoir si les Allemands, qui avaient des scientifiques de très haut niveau, dont Werner Heisenberg, un des papes de la mécanique quantique, qui était aussi le chef du projet nucléaire allemand en 1939, allait réussir à fabriquer une bombe. Donc, moi, si j'avais été à sa place, j'y serais allée. Aussi parce que j'aurais rêvé de travailler avec un type comme Enrico Fermi, mais pas seulement, le danger était réel, vraiment, on ne pouvait pas savoir. Elle est une des rares, le seul nom que j'ai à l'esprit de gens qui ont refusé de participer à ce projet, c'est Lise Meitner.
Non, je suis désolée, c'est impossible. Je ne veux rien avoir à faire avec la construction d'une bombe. Évidemment, c'est possible. C'est tout à fait possible qu'un type comme Heisenberg ait avancé autant qu'Enrico Fermi à Chicago. Mais bien sûr que je souhaite la défaite des nazis. Comment peux-tu me poser une question pareille? Non, je te répète que c'est impossible. J'ai vu trop d'horreurs en 1915 et 1916. J'ai vu la mort et la souffrance. Je ne veux pas, de près ou de loin, être responsable d'un massacre.
Quant à Marthe Gauthier, la quatrième fabuleuse, c'était une pédiatre française, une élève de Debré. Et il se trouve qu'elle est allée aux États-Unis et que faire passer un an dans divers laboratoires et hôpitaux. Et elle y a appris la culture cellulaire qu'on ignorait totalement à ce moment-là, on est dans les années 50, en France. Et elle revient dans un département où on s'intéresse en fait au mongolisme. C'est le département du professeur Raymond Turpin. On s'intéresse au mongolisme et Raymond Turpin a l'intuition que le mongolisme est une affaire de chromosomes. Mais pour le prouver, il faut savoir faire de la culture cellulaire. Marthe sait le faire, elle s'y colle. Elle démontre que l'origine du mongolisme, c'est que la paire, ce qui devait être une paire chromosomique, la paire 21, n'est pas une paire mais un trio. C'est ce qu'on va appeler la trisomie 21. Et elle se fait voler la vedette par un collègue qui s'attribue la découverte. Voilà ce que raconte la pièce. Mais récemment, le comité d'éthique de l'INSERM, en 2014, si je me souviens bien, a reconnu que Marthe Gauthier avait fait les expériences et avait permis d'arriver à la conclusion que la personne qui lui a volé ses résultats, finalement, avait fait une très bonne communication sur les résultats, mais n'avait pas œuvré à leur fabrication. Dans le cas de Jocelyn Bell, ce qui est intéressant, c'est de voir que son patron de thèse, donc, qui a été récompensé par le Nobel en 1974, jusqu'à la fin de sa vie, il y a à peu près 2 ans, restait droit dans ses bottes et disait à qui voulait l'entendre qu'il était absolument normal qu'il ait été le seul récompensé puisqu'il ne fallait pas confondre tout de même l'équipage et le capitaine, et que quand Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, c'était à lui qu'on avait attribué cette découverte, et non pas à la vigie qui, en haut de son mât, disait « terre, terre ». Voilà. Donc, le système, d'une certaine façon, lui donnait raison et il était tout à fait confortable avec la façon dont les choses s'étaient passées.
Quels objets célestes émettent cet étrange signal ?
Ce sont des étoiles à neutrons.
Les étoiles à neutrons.
Et elles sont produites lors de l'explosion de ce que l'on appelle des supernovae.
Des supernovae. Alors, Miss Bell, votre petite amie doit être très fière de vous savoir associée à une telle découverte. Mais peut-être n'avez-vous pas de petite amie. Ou peut-être en avez-vous plusieurs. Bon, alors, Miss Bell, est-ce que l'étudiante en astrophysique à Cambridge s'intéresse à la mode?
Non, pas du tout.
Comment définissez-vous votre couleur de cheveux? Blonde, brunette...
Je sais pas. Je voudrais dire que les pulsars sont des objets célestes fascinants. Que
oui, on sent votre enthousiasme. Et peut-être votre admiration pour votre directeur de recherche?
Non, non.
Alors, la réception de ces pièces... Elle est excellente quand les gens viennent, mais c'est toujours difficile de faire venir les gens sur des propositions scientifiques. Je pense que 99% de la population a peur d'être envoyée au tableau ou qu'on lui fasse un cours de physique ou de maths qui lui rappelle de très très mauvais souvenirs de sa tendre enfance. Donc, bien que mes pièces, je crois, soient abordables par absolument tout le monde, on y apprend un tout petit peu de science. Qu'est-ce qu'on apprend? Pourquoi la structure en double hélice de l'ADN, finalement, permet de comprendre comment on se reproduit? C'est une chose assez intéressante que chacun devrait savoir. Ce que c'est que l'énergie nucléaire, on casse un noyau atomique et on libère une très grande quantité d'énergie. On peut l'utiliser à faire de l'électricité ou d'autres sources d'énergie. Ou bien on peut l'utiliser pour fabriquer une bombe nucléaire. Ça me paraît aussi intéressant que tout le monde sache ça. Mais pour le reste, ce sont surtout des histoires humaines que je raconte, bien sûr. Et vraiment, je crois que tout un chacun est capable de suivre ces pièces. Mais il y a toujours quand même une certaine réticence. L'ouvrage, le bouquin « La double hélice » de James Watson a été d'abord refusé par des éditeurs scientifiques comme Harvard University Press, où ils voulaient le faire éditer. Et l'éditeur a demandé qu'il soit relu par tous les gens qui étaient cités dans ce livre. Parce que Watson racontait l'histoire de sa découverte à sa sauce, entraînant un peu dans la boue tout le monde, et en particulier Rosalind Franklin. Mais Crick et Wilkins ont pu évidemment corriger ce qui les concernait. Rosalind Franklin, elle, ne l'a pas pu, puisqu'elle est morte à 38 ans, en 1958, avant l'écriture de ce livre. Et ça, c'est... Alors, ensuite, il l'a fait publier par un éditeur qui n'est pas un éditeur scientifique, et c'est un best-seller. Mais il minimise, évidemment, la part de Rosalind Franklin dans la découverte. Cependant, il dit des choses assez intéressantes. Il dit « Quand Wilkins m'a montré le cliché 51, c'est-à-dire le cliché de rayons X qui montre la structure en double hélice de l'ADN, comment Wilkins aurait-il pu lui montrer une photo qui appartenait à Rosalind Franklin et à son étudiant Raymond Gosling s'il ne l'avait pas volée ?»« Quand Wilkins m'a montré ce cliché, ma mâchoire est tombée, mon sang s'est mis à couler plus vite dans mes veines. » Enfin, je cite de mémoire, donc c'est approximatif, mais c'est à peu près ça. Donc, il s'est évidemment rendu compte de l'importance de ce cliché et n'a pas manqué de l'utiliser pour fabriquer le modèle qu'il a fait avec Francis Crick et qui a eu tellement de succès qu'en 62, ces trois messieurs, Wilkins, Crick et Watson, ont eu prix Nobel de médecine.
Rosalind n'était pas intéressée par la compétition, la course au résultat par tous les moyens, même les pires. Non, ce n'est pas ce qui l'intéressait. Peut-être que ce n'est pas ce qui intéresse les femmes d'ailleurs. Non, j'en sais rien. Rosalind n'a peut-être jamais su qu'on lui avait volé ses résultats. Ou peut-être l'a-t-elle su, mais cela lui était égal. Il m'arrive parfois de penser que nous vivons dans un monde où les hommes s'entre-déchirent pour la première place et où les femmes pardonnent. Évidemment, on ne leur laisse aucun autre choix. Et c'est ainsi que l'histoire les laisse sur le bord de la route.
Le choix est assez arbitraire, il faut bien le dire. Dans le cas de Lise Meitner et de Rosalind Franklin, je les ai choisis parce que je trouve que ce sont deux découvertes absolument majeures qui ont changé la face du monde. Et je trouve ça insupportable que les gens ne connaissent pas leur nom. Quand on était au Festival d'Avignon, on demandait aux gens s'ils pouvaient citer une autre femme scientifique que Marie Curie. C'est édifiant. Marie Curie, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Et pratiquement personne, sauf des scientifiques, personne n'a été capable de nous citer de noms de femmes scientifiques. Donc au moins ces deux-là, je voulais en parler. Et puis, il existe des biographies assez complètes sur elles. Donc moi, je ne suis pas historienne, je me base sur des biographies. Et dans le cas de Lise Meitner, c'est même très intéressant parce qu'il y a, en particulier dans la biographie qu'a écrite Ruth Levine, qui s'appelle « Life for Physics » sur Lise Meitner, il y a des extraits de lettres entre elle et Otto Hahn, son collaborateur, elle et son neveu Otto Robert Frisch. Et donc, on peut non seulement écrire des choses vraies, des situations vraies, mais on peut aussi donner aux gens, leur mettre dans la bouche des mots, bien sûr qu'ils n'ont pas forcément prononcé, puisque je n'étais pas là pour les entendre, mais qu'ils ont écrit dans des lettres qu'ils s'envoyaient. Donc ça, c'est assez précieux. Jocelyn Bell, je l'ai rencontrée. Et je l'ai interviewée. Donc, c'est cher à mon cœur parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était à Tromsø, dans le nord de la Norvège, où nous étions toutes les deux à un congrès. Et elle donnait la keynote lecture. Et je n'avais pas très envie d'y aller, j'aurais préféré aller prendre un thé sur le fjord. Mais comme je suis une fille très, très, très sérieuse, je suis allée à cette conférence et je crois que, pourtant j'ai entendu de bons orateurs et de bonnes oratrices dans ma vie en physique, mais je crois que c'est la plus belle conférence à laquelle j'ai jamais assisté. C'est une oratrice de tout premier plan. Et donc j'ai eu envie de savoir ce qu'elle avait fait et en fait elle ne parlait pas du tout, ça c'était en 2007, donc elle ne parlait pas du tout des pulsars. Mais je suis allée voir sur Internet et j'ai trouvé des tas de choses sur son histoire, l'histoire de la découverte du premier pulsar. Et donc, ça m'a donné envie de l'interviewer. Voilà cette histoire-là. L'histoire de Marthe Gauthier, comment j'ai rencontré Marthe Gauthier, si l'on peut dire, puisque je ne l'ai jamais, hélas, rencontrée vraiment en personne. Je l'ai rencontrée à travers un article du Monde, de 2013 ou 2014, qui s'appelle « La vieille dame et les huissiers de la Fondation Jérôme Lejeune ». Et cette histoire, c'est l'histoire d'une dame de 88 ans qui va à un congrès à Bordeaux pour être enfin reconnue dans ce qu'elle a fait dans la découverte qu'elle a faite 50 ans auparavant et qu'on empêche de parler. Et ça m'a serré le cœur et j'ai eu envie d'en savoir davantage sur elle et sur toute cette histoire. Je crois que si j'arrive à écrire ma cinquième fabuleuse, ça sera Cataline Carico, qui a travaillé sur l'ARN messager, dont on a déprécié dans sa Hongrie natale, puis aux États-Unis, quand elle est arrivée pour faire ses recherches. On a déprécié son travail, on l'a considéré comme une chercheuse de deuxième zone. Elle n'était pas financée, elle était reléguée à l'entresol, enfin, elle a eu une vie de misère. Et puis, grâce au vaccin contre le Covid, elle a fini par sauver la planète. Et elle, elle a eu le prix Nobel de médecine en 2022. Et je trouve que c'est une très belle histoire. Et son message, parce que ces pièces, je les écris aussi beaucoup pour les jeunes femmes qui voudraient faire de la science, et qui, quand elles regardent, se disent « mais il y a tellement d'hommes géniaux et aucune femme géniale », j'ai envie de leur dire « voyez, il y a beaucoup de femmes géniales, simplement on les a reléguées aux oubliettes de l'histoire des sciences. Donc si vous avez envie de faire des sciences, vous êtes aussi capable que les garçons, allez-y ». Le message de Cataline Carico, c'est « ne lâchez rien ». On a un petit théâtre à Avignon qui s'appelle Avignon Reine Blanche, dans lequel la trilogie, puisque pour le moment c'est une trilogie, des fabuleuses, c'est-à-dire Exil intérieur, Prix Nobel et l'affaire Rosalind Franklin, seront jouées cet été lors du Festival Off du 5 au 23 juillet. J'ai voué la Reine Blanche au théâtre scientifique depuis son ouverture. Alors en fait, la programmation va très au-delà de la science, c'est-à-dire que dans les sciences, j'inclus évidemment les sciences humaines, et par continuité, les problèmes qui traversent la société, les problèmes d'actualité sur la masculinité, le féminisme, que sais-je, la procréation, enfin d'autres thèmes qui, encore une fois, par continuité, se rapportent à la science. Mais si j'ai eu envie de parler des sciences, et en particulier des sciences dures, ce qui fait notre spécificité, c'est que je pense qu'il y a une culture scientifique, et que comme toute partie de la culture, elle se doit d'être partagée avec le plus grand nombre. Je crois qu'on peut aller au-delà du formalisme qui décourage la plupart des gens devant la connaissance scientifique pour faire passer quelques messages simples, mais qui permettent aux gens de comprendre des choses essentielles. Quand on pense aux grandes problématiques sociétales comme le changement climatique, le genre, la répartition des richesses, l'eau, tous ces problèmes-là, la science n'est pas la seule à pouvoir porter un regard là-dessus. Mais si on n'a pas du tout de connaissances scientifiques, comment peut-on appréhender ces questions-là sérieusement ? Comment peut-on échapper au premier charlatan venu nous raconter n'importe quoi sur ces sujets extrêmement importants. Donc j'ai eu envie vraiment de faire d'avoir cette démarche. Elle a fini par être comprise par la communauté théâtrale, qui est très 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 élogieuse sur la démarche de la Reine Blanche maintenant. Il faut encore convaincre un peu le public, je dois dire, qui a toujours peur de s'aventurer dans des régions inconnues et qui sont, oui, peut-être qu'ils leur rappellent de mauvais souvenirs. La science, c'est pas toujours très attirant pour le grand public. Mais j'espère que ça viendra. On voit bien qu'il y a un public qui commence à se construire autour de ces questions. Et d'ailleurs, d'autres théâtres s'ouvrent à des questions scientifiques maintenant également, sporadiquement. Personne, je crois, aucun théâtre en France n'a une programmation aussi fidèlement attachée à la science. Mais enfin, y a d'autres théâtres qui accueillent des pièces, disons, d'inspiration scientifique. Moi, je pense que la culture scientifique, elle passe aussi par les figures qui ont fait de grandes découvertes. Là, il s'agit de figures féminines, mais par le passé, on a produit une pièce magnifique sur Galilée, qui s'appelait Galilée le mécano, une pièce italienne de Marco Paolini. On a accueilli d'autres pièces, Copenhague de Michael Frears. C'est vrai que ce sont toutes des pièces historiques et qui nous dépeignent finalement des personnalités extraordinaires de l'histoire des sciences. Et je trouve que l'enseignement de la science, d'ailleurs, est trop dépourvu de ces personnages importants. C'est un enseignement où la science est un peu désincarnée et je trouve que c'est tout à fait dommage. J'aime à penser aux gens qui ont fait ces découvertes et qui nous ont fait globalement tellement avancer.
Très admirative. Il m'aura fallu des heures d'observation, plus de 2 ans d'expérimentation en fait, pour arriver au même résultat que vous, messieurs. Vous n'êtes pas impressionné, docteur Wilkins ?
Si, si. Très impressionné. Je dirais même sidéré. Double hélice passe encore, je peux comprendre. Mais pour la symétrie et tout le reste, comment diable avez-vous fait ? Et ce chimiste du Cavendish, alors c'est qui ?
La force de la théorie. Vraiment, la réflexion à l'état pur. Vous autres, les expérimentateurs, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ça. Pas vrai, Francis ?
Allons. L'essentiel, c'est que tout le monde soit d'accord et que nous ayons enfin découvert cette structure.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, la science a fait un pas de géant et c'est ce qui compte.